Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Tabassage en règle, tir de sommation à balles réelles, retour sur les violences attribuées aux forces de police de Hong Kong hier lors d'une manifestation interdite par les autorités. Le pardon à la Pologne du président allemand ce matin lors des cérémonies du 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale. Cette Pologne qui craint encore et toujours son voisin russe. Reportage de Thomas Giraudot dans l'enclave de Kaliningrad. Dans l'actualité française, 100e féminicide depuis le début de l'année. Collectif et associations demandent au gouvernement de passer à l'acte. Vous écouterez Caroline De Haas de Nous Toutes. Et puis au sommaire de la face cachée du globe, signée Nabila Hamel, les violences en Papouasie indonésienne et les prisonniers d'opinion à Cuba. Des centaines de militants pro-démocratie convergent vers l'aéroport de Hong Kong. Ils ont l'ambition d'en saturer les accès. Le week-end dernier, ils avaient échoué à perturber le trafic de l'un des aéroports les plus fréquentés au monde. La détermination des manifestants semble être intacte et d'une certaine manière alimentée par les violences commises par les forces de l'ordre, notamment dans les couloirs du métro hier en début de soirée. Précision du Hong Kong de Florence Duchangy.
La scène a lieu vers minuit sur l'un des quais souterrains de la station de métro Prince Edward. On voit d'abord une troupe de policiers arriver en courant à toute allure le long d'un train plein de passagers dont les portes sont ouvertes. Ils semblent répondre à une urgence, mais c'est un chaos total qui s'ensuit. On voit des jeunes plaqués au sol, des gaz poivre envoyés dans une voiture pleine de voyageurs. Un policier brandit son fusil à gaz lacrymogène à très courte portée avant de le baisser. La scène la plus choquante est celle d'un passage à tabac frénétique de quelques passagers recroquevillés au sol qui supplient d'arrêter. Or, la plupart des Hongkongais qui n'étaient pas dans la rue hier étaient derrière leur poste de télévision ou leur téléphone et ont tout suivi en direct. L'épisode va s'ajouter à une longue liste de bavures que les Hongkongais reprochent à leur police depuis le début de cette crise. Les médias chinois, qui relatent l'incident, accusent des manifestants d'avoir attaqué des voyageurs avec des extincteurs, mais ils ne montrent rien des policiers totalement hors de contrôle.
Voilà, précision de Florence Duchangy à Hong Kong. Sévère salve de la présidente slovaque à l'encontre de la justice de son pays au sujet de l'enquête sur la mort du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa compagne Martina Kusterová, tuée par balle en février 2018. Zuzana Kaputova déclare au quotidien autrichien Courir. Les investigations mettent principalement en lumière les contacts entre les commanditaires présumés et les tribunaux, le parquet, la police, mais aussi certaines personnalités politiques, gouvernementales et le Parlement. Fin de citation. Jan Kuciak enquêtait sur les relations on ne peut plus troubles entre politique et hommes d'affaires slovaques et la mafia italienne. En Pologne, 80 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon ce matin aux victimes de l'agression allemande lors d'une cérémonie à Vielugne, à l'heure exacte de l'explosion des premières bombes tombées en 1939 sur cette petite ville, première cible de l'offensive d'Hitler, surnommée depuis la Guernica polonaise. Une quarantaine de délégations de chefs d'État et de gouvernement participent aux commémorations à Varsovie à la mi-journée. Le président russe Vladimir Poutine n'a pas été convié à ces cérémonies officiellement en raison de l'annexion de la Crimée en 2014. Mais avant toute autre chose, parce que de nombreux Polonais, toutes générations confondues, craignent leurs voisins russes, notamment à la frontière commune entre les deux pays, le long de l'enclave de Kaliningrad où s'est rendu Thomas Giraudot.
À Braniewo, les 18 000 habitants vivent à quelques kilomètres seulement de Kaliningrad. Ses militaires au nombre inconnu et ses missiles. 46 ans que Teresa habite ici, elle sort de la basilique détruite par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale.
Mes parents m'ont toujours dit qu'avec les Russes, il faut s'attendre à tout. Ils ont vécu les deux guerres mondiales et ils craignaient plus les Russes que les Allemands. Les Russes sont les plus imprévisibles, les plus dangereux. Je suis persuadé à 99% qu'ils attaqueraient sur l'ordre de Vladimir Poutine. Ce sont des gens qui lui sont très fidèles.
Les plus de 40 ans, ceux qui ont vécu le communisme et parfois la guerre, sont marqués par les exactions commises par les soviétiques dans la région à la fin du dernier conflit mondial. Les plus jeunes, eux, expriment différemment leur crainte des Russes, comme Emilia, 27 ans.
Nous sommes sur la ligne de front entre la Pologne et la Russie. Donc oui, en cas de mouvement des armées, on serait les premiers à attaquer à Braniewo. Mais je pense que si jamais un conflit éclate aujourd'hui, ce ne seront certainement pas avec des véhicules militaires, des chars ou des soldats. Ce sera plutôt une guerre basée sur des sanctions, des embargos, probablement la bataille de l'information sur Internet, des cyberattaques.
Des actions déjà mises en œuvre côté russe et côté européen, le gouvernement polonais a suspendu depuis 3 ans un accord sur le petit commerce transfrontalier. Les Russes doivent depuis payer un visa pour faire leurs courses moins chères en Pologne. Et Varsovie se rapproche de son allié américain pour assurer sa défense face aux voisins russes. 1000 soldats supplémentaires devraient s'installer sur le sol polonais.
Du petit commerce à l'incommensurable volume des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis, deux puissances en guerre depuis 1 an et demi. Ce matin, premier prélèvement de droits de douane sur les importations mutuelles de ces deux géants économiques. 15% d'imposition pour Washington sur un peu plus de 110 milliards d'importations chinoises. Les produits taxés de la sorte viennent des secteurs de l'ameublement, du textile et de l'alimentaire. En première ligne, en effet, les agriculteurs américains soumis aux mesures de représailles chinoise. Des agriculteurs qui peinent à exporter leur blé ou leur soja à telle enseigne que la défiance vis-à-vis du président Donald Trump enfle de jour en jour, comme l'a constaté Grégory Phillips dans le Minnesota où se tient tout ce week-end une grande foire agricole.
Même si l'ambiance est festive et musicale dans les allées de la State Fair, la foire agricole de Minneapolis, qui chaque année attire 2 millions de visiteurs, l'heure est à la morosité. La guerre commerciale avec Pékin a considérablement freiné les exportations de blé, de porc et surtout de soja. Les Chinois passent désormais commande au Brésil ou au Canada. Gary Wertisch préside le syndicat des fermiers du Minnesota.
Vous savez, nous sommes les dommages collatéraux. Tout le monde est d'accord pour dire que la Chine viole la propriété intellectuelle dans l'agriculture. Culture ou l'industrie. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il fallait faire quelque chose. Mais le président Trump, comme sur un ring, s'est coincé dans les cordes et il ne sait pas comment s'en sortir. Franchement, nous les fermiers, nous en avons ras-le-bol de l'entendre dire que nous sommes en train de gagner alors qu'en fait, on perd. Beaucoup. Il nous dit « Vous êtes des patriotes, mais moi quand je vais à la banque et que je n'ai pas assez d'argent pour rembourser mon crédit à cause de ces droits de douane, eh bien mon banquier ne me dit pas « Vous êtes patriotes, pas la peine de rembourser ».
L'administration a bien débloqué des subventions pour aider les agriculteurs américains à surmonter la crise. Mais dans ce seul Minnesota, le nombre de fermes en faillite a bondi de 13% en 1 an. La colère et la frustration des fermiers est de moins en moins rentrée. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Donald Trump à 15 mois de la présidentielle.
Grégory Phillips dans le Minnesota. Les enquêteurs tentent de faire la lumière sur les raisons qui ont poussé un ressortissant afghan de 33 ans à semer la terreur à l'arme blanche hier à Villeurbanne. L'homme s'est approché d'un arrêt de bus et a commencé à poignarder des passants autour de lui. Avec un grand couteau, il a tué un homme et a blessé 8 personnes, dont 3 grièvement. Des passants et des agents des transports en commun l'ont alors maîtrisé. Hier soir, une femme était tuée dans les Alpes-Maritimes. Il s'agit du 100e féminicide de l'année 2019. L'année dernière, 121 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Un chiffre qui cache une réalité bien plus grave encore, selon Caroline Dehas, militante féministe et membre du collectif Nous Toutes, qui une fois de plus appelle les autorités à tenir leurs promesses.
En finir avec les violences, ça implique un changement assez radical dans la société de mentalité et de comportement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en France, les changements assez radicaux de mentalité et de comportement, on sait faire. On l'a déjà fait sur d'autres thématiques, par exemple sur le tabac ou sur la sécurité routière. On a réussi, en menant des politiques publiques offensives avec des moyens financiers importants, à changer assez profondément la façon de faire, la façon de penser de toute la société. Et bien sur les violences, il faut faire pareil. Il faut éduquer de manière systématique les plus jeunes à la non-violence. Aujourd'hui, quand vous êtes un jeune citoyen ou une jeune citoyenne française, vous allez à l'école, vous êtes sensibilisé à la sécurité routière de manière obligatoire. Pourquoi on ne fait pas la même chose sur la prévention des violences? La deuxième mesure à prendre, c'est la formation des professionnels. Quand vous voyez que vous avez des policiers ou des gendarmes qui accueillent les femmes en commissariat en les culpabilisant ou en les renvoyant chez elles alors que tous les signaux d'alerte sont au rouge, il y a un manque de formation des professionnels qui est absolument terrifiant. La troisième mesure à prendre, c'est une mesure d'hébergement. On est en France aujourd'hui en dessous des normes européennes en matière de nombre d'hébergements pour les femmes victimes de violences. On estime qu'il faudrait en ouvrir au moins 2000 d'ici la fin du quinquennat. Le gouvernement s'était engagé à ouvrir 200 places cet été en urgence. Et on a découvert là, en fin de semaine, que ces places n'avaient jamais été ouvertes.
Des propos recueillis par Adrien Paluet. Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du Globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Omar El-Bashir a été inculpé pour corruption et possession illégale de devises étrangères. Évincé du pouvoir en avril dernier sous la pression de la rue, l'ex-président soudanais a reconnu hier avoir reçu 25 millions de dollars du prince saoudien Mohamed Ben Salman et des fonds en provenance d'autres sources. À noter qu'une autre procédure est ouverte à son encontre sur son implication présumée dans la mort de manifestants en décembre dernier. L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en août pour un quatrième mois consécutif. Les commandes intérieures comme extérieures ont continué de chuter. Face à des perspectives incertaines, des usines ont continué de supprimer des emplois. La faiblesse actuelle du secteur manufacturier intervient dans un contexte d'accentuation des pressions commerciales américaines contre la Chine. Pour commencer, nous allons en Papouasie indonésienne, en proie à des violences depuis 2 semaines. Ce mouvement de colère a été déclenché par l'arrestation de 43 étudiants papous sur l'île de Java, le jour de la fête nationale. Les répercussions dans plusieurs villes de Papouasie ne se sont pas fait attendre. Des manifestants y ont dénoncé le racisme des autorités de Jakarta. D'autres réclament plus directement l'indépendance de cette province, officiellement annexée par l'Indonésie en 1969. Les explications de Marie-Pierre Véraud.
Depuis près d'un demi-siècle, les appels à l'indépendance ne se sont jamais tus. Une rébellion, l'Organisation pour une Papouasie libre, mène une guérilla de basse intensité contre les forces indonésiennes, considérées comme des forces d'occupation et de pillage des ressources naturelles. Les derniers troubles ont gagné plusieurs villes, des bâtiments officiels dont le parlement local ont été incendiés, une prison également où sont retenus des militants indépendantistes dont certains ont pu s'échapper. Difficile de donner un bilan précis des violences ou même de mesurer l'étendue des troubles, Internet a été coupé pour des raisons de sécurité, affirme l'Indonésie. 20 ans après avoir organisé un référendum au Timor oriental qui a mené la petite île à une indépendance sanglante, Jakarta n'est pas prête à laisser partir un autre territoire de surcroît très riche en minerais. Mais les slogans hostiles à l'Indonésie ont repris de la vigueur. Le ressentiment sur place reste vif. Les Papous ont toujours été traités en citoyens de seconde zone. La réponse à leur velléité d'autonomie a toujours été la répression. On ne compte plus les rapports dénonçant les abus contre les droits de l'homme commis par l'armée et la police indonésienne. De nouveaux renforts ont été envoyés dans cette province qui est déjà la plus militarisée de l'archipel, la plus pauvre également, alors qu'elle abrite la plus importante mine d'or au monde.
Tout juste un an après la prise de fonction du président Miguel Díaz-Canel, l'existence de prisonniers d'opinion à Cuba continue de montrer nettement que les autorités restreignent toujours le droit fondamental à la liberté d'expression et de réunion. 5 nouveaux noms ont été récemment ajoutés à la liste. C'est dire qu'au fil du temps, les noms des prisonniers d'opinion ont changé, mais la tactique des autorités est restée identique. C'est un constat fait par l'organisation Amnesty International. Pour en parler, Nadine Epstein a joint Geneviève Garrigos.
Lors d'une conférence qu'il y avait eu en 2016 entre Barack Obama et Raúl Castro, justement avait été posée la question des prisonniers politiques à Cuba. Celui-ci avait dit qu'il n'y en avait pas et il avait demandé des listes. Il y a une certaine continuité à Cuba, que rien ne change et qu'on continue d'être arrêté pour des opinions politiques. Et un des cas les plus extrêmes d'ailleurs, c'est que les personnes par exemple qui vont critiquer le gouvernement peuvent se retrouver licenciées. Et du fait qu'elles se retrouvent sans emploi, eh bien elles sont considérées comme des personnes dangereuses et peuvent être incarcérées. Donc plus de 70 personnes sont considérées comme des prisonniers politiques. Depuis 4 ans maintenant, nous avons donné le statut de prisonnier de conscience à 12 personnes. Il y a notamment Silverio Portal Contreras qui a été condamné à 4 ans de prison pour outrage et pour désordre public. Tout simplement, il a crié « Dehors Fidel Castro, dehors Raoul ». Circonstance aggravante, c'était dans une zone touristique. Silverio a été arrêté en juin 2016 et condamné à 4 ans de prison. Un autre cas qui est assez emblématique de la situation des prisonniers politiques à Cuba, c'est celui de Elisser Bandera Barrera, qui lui est membre de l'Union patriotique de Cuba et qui a été condamné en 2015 à une peine de 6 ans pour dangerosité. Elisser a été arrêté alors qu'il avait filmé justement les conditions de détention dans les camps de travail des prisonniers. Un des grands problèmes de ces prisonniers, c'est qu'ils n'ont pas accès justement à leur famille, à leur avocat et qui subissent même des mauvais traitements ou n'ont pas accès aux soins quand ils sont malades.
L'adieu à Didier Arafat, chanteur ivoirien et l'un des artistes les plus populaires de l'Afrique de l'Ouest, a rassemblé vendredi soir des dizaines de milliers de fans dans le plus grand stade d'Abidjan. Mais cet hommage au roi du coupé décalé a quelque peu été écorné hier matin lorsqu'une foule de jeunes s'est rendue au cimetière peu après l'inhumation pour ouvrir son cercueil et prendre des photos. La police a dû intervenir et a fait usage de gaz lacrymogène pour faire évacuer les lieux. À dimanche prochain.
À dimanche prochain. Merci à vous, Nabil Hamel. La face cachée du globe à retrouver sur franceculture.fr. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Des ondées dans le sud et l'est de la France. Tandis que le temps sera plus calme et ensoleillé dans le nord-ouest. Cette édition a été préparée avec M. Le Chidi à la technique Laurie Vachon.